Alors, Jordan, quand tu vois des alpagas, tu es hyper touché. Je vois une alpaga. Ah, c'est tellement romantique le bruit que ça fait. Écoute, c'est, on dirait Fred. Quasiment, je trouve ça fantastique. Mais, mais c'est parce que toi, tu vois quelque chose d'attendrissant, c'est vrai. Et moi, je vois un foulard.
Ou une boule de lainage pour ta sécheuse. Hey, je vais faire un mini-retour sur les alpagas parce que, vous savez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé du domaine poisson et de ces fameux alpagas. Ben, sachez que notre recherchiste, Alexandra, est allée vivre l'expérience avec ses deux enfants. Mm-hmm. Elle a capoté, j'ai eu une panoplie de photos. Et surtout, il y a plein de gens qui, après avoir écouté la chronique ici au 98.5, sont allés visiter la ferme des alpagas et j'ai reçu un appel. Il y a eu plusieurs naissances de bébés alpagas. Donc, et j'ai le privilège de pouvoir en nommer un. Fait que je vais nommer un bébé alpaga du nom de mon choix au domaine poisson. Oui, c'est ça. Marilyn.
Non, mais as-tu choisi?
Ben, j'ai pas choisi encore. On va m'envoyer les photos, mais là, je demande l'aide du public. J'ai besoin de suggestions pour l'alpaga, donc vous pouvez nous écrire pour me donner vos suggestions de nom de bébé alpaga, que ce soit fille ou garçon. Ça serait le fun qu'on vive ça ensemble.
On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille.
Il y en a plusieurs, là. Ils savent à la naissance.
Okay.
Ouais, non. Il n'y a pas de rendez-vous
à. Non, on passe
pas sur les au chum, là. Non, pas du tout. Donc, on le sait à la naissance.
Tout ce que tu vois, c'est une grosse tuque.
Exactement. Donc, j'ai besoin de votre aide, chers auditeurs, pour nommer ce bébé alpaga qui sera une gracieuseté du 98.5 au domaine poisson. C'est cool, quand même.
Donnez-y juste pas mon nom de famille. Alpaga Bigro. Profondément laid.
Mais tu sais que plus tu me dis de pas le faire, plus ça me donne le
plus
goût.
Plus ça te tente, toi.
Oui, exactement. Dan, oui, vraiment. Il y a un spectacle qui s'appelle La promesse de la mer. Je veux t'en parler. C'est extraordinaire. C'est l'aventure de Mylène Paquette qui est adaptée au théâtre. Vous avez, il reste un gros, à peu près 12-13 jours pour voir ça. C'est à la Maison de la culture Francis Brisson à Shawinigan. Mylène Paquette, pour se rappeler qui elle est, hein, c'est cette fameuse Québécoise qui est en 2013, passée à l'histoire en devenant la première personne du continent américain à traverser l'Atlantique Nord à la rame. Donc, c'est notre fameuse rameuse. 5 ans de préparation, est partie de Halifax à s'est rendue en Nouvelle-Écosse. C'est 129 jours sur mer qu'elle a passé. 5000 kilomètres plus loin, elle est arrivée à la destination de Lorient en France. À peu près 10 chavirages là-dedans, des péripéties. C'est une histoire extraordinaire. Et moi, je la connais depuis que j'ai 14 ans. J'ai travaillé avec elle à la poissonnerie de mon père. Donc, on n'a jamais vraiment sorti la mère de la fille, finalement. Okay. Donc, cette aventure-là de Mylène Paquette, bon, il y a eu un livre et tout ça, elle est maintenant
adaptée. Il y en a un qui envoie une suggestion de nom, l'alpaga, Mousse-croûte. Ça va s'aggraver. Moi, je bains les autres courriels qui vont rentrer.
Mais moi, je te laisse gérer ça, tu vois. Ça, c'est la beauté de ma job. Donc, ça a été adapté au théâtre par Brian Perrault, qu'on aime beaucoup, cet auteur-là de fantastique et pour enfants. Et c'est une mise en scène de Pierre-François Legendre. Et c'est Tammy Verge, la comédienne et animatrice de C'est quoi, qui incarne Mylène Paquette en solo sur scène. Donc, j'ai eu la chance de lui parler plus tôt aujourd'hui. Je lui ai posé quelques questions vraiment intéressantes sur son processus quand même, parce que c'est une grosse aventure à mettre en scène. Et je lui ai demandé surtout, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus de cette aventure qui a été extrêmement médiatisée?
Ce qu'ils ont appris, c'est des choses qui sont plus intimes par rapport à Mylène, je pense. Mylène va plus en profondeur par rapport, entre autres, à un événement, un avortement qu'elle a choisi de vivre. Et elle a fait une promesse à cet enfant-là qui n'aura jamais vu le jour, c'est-à-dire lui dire qu'elle aurait une vie qu'elle n'aurait pas pu avoir s'il avait été là. Et c'est cette promesse-là qu'elle va avoir toujours en tête pendant sa traversée, puis avant sa traversée. Puis c'est ça qui va être le moteur pour compléter son aventure.
C'est quand même touchant d'apprendre que justement le titre de la pièce repose sur une promesse faite suite à un avortement. Donc, sujet quand même qui a été très discret hein, durant l'aventure de Mylène Paquette, mais là qui est abondamment abordé durant le spectacle. Tammy Verge a un fils d'à peu près 20 ans, donc je lui ai demandé si ça vient la chercher en tant que maman.
J'ai moi-même subi un avortement. Alors, je comprends exactement tout ce qui s'est passé dans sa tête, tout ce qu'elle a vécu. Ça m'a touchée et je le confirme, là, ça touche énormément les gens dans la salle. Puis la mère de Mylène est aussi présente dans la pièce, ce qui fait qu'il y a, tu sais, je veux dire, c'est multiple, ça, cette idée-là, la maternité. C'est un show très, très féministe.
C'est aussi un spectacle où on s'adresse beaucoup au public. Le quatrième mur, là, ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est le public, est souvent brisé. Donc, il y a une certaine forme de stand-up là-dedans où on s'adresse directement aux gens. Et c'est un public qui va de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, des gens qui ont envie d'aventure et qui ont suivi le parcours de Mylène.
Et c'est pas juste théâtre, c'est monologue. On parle au
oui,
public.
Oui, exactement. Et, et je lui ai posé la question parce que Tammy a dit en entrevue au Journal de Montréal qu'elle a dû affronter ses peurs et de nombreux défis durant cette expérience-là solo. Voici ce qu'elle a à dire là-dessus.
C'est un lien avec le fait de faire un spectacle en solo. Moi, je suis une fille d'équipe. Moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation, puis moi, je faisais pas d'impro solo. Moi, je faisais des impros où on était deux, trois, plusieurs personnes. J'aime le dialogue, j'aime ce ping-pong-là entre deux comédiens. Alors, j'avais vraiment un vertige, tu sais, de faire ça tout seul. Là, c'était vraiment hors de ma zone de confort.
Je comprends. Nous autres, je regardais ça, je nous comparais avec les humoristes. Les musiciens, nous autres, à un moment donné, on peut partir un peu. Tu sais, ça se passe moins bien, ben, je vais faire un solo de piano. J'ai toujours fait ça quand je jouais à la
barre. C'est ça, tu peux padder, ben oui.
Mais elle ne peut pas, là.
Ben non, tout à
elle
fait.
Elle ne peut pas que quand tu es plate, 5 secondes. C'est 5 secondes de profond malaise dont tout le monde va se souvenir. C'est vraiment sur un fil de fer.
Ben oui, si tu perds ton focus, si l'énergie baisse, il y a plein de facteurs. Tout à fait, tu as raison. Toi, tu peux pianoter pendant ce temps-là.
Oui, nous autres, on a une espèce de filet de sûreté en faisant de la musique. Puis tu peux arrêter même de regarder le monde, te concentrer sur tes affaires, prendre le temps, te regrouper, revenir. Les personnes qui s'adressent au public directement en étant seules ne peuvent pas.
C'est aussi un immense défi d'incarner pour elle un personnage qui est vivant. Donc, Mylène Paquette, qui vient tout juste d'avoir un enfant, est vivante et elle est toujours bien active. Donc, comment qu'on réussit à créer un lien avec ça? C'est à travers l'humour qu'elle me racontait qu'elle a vraiment créé un lien avec Mylène. Donc, un humour au second degré, beaucoup d'autodérision ensemble en conférence de presse. Ils finissaient les phrases une de l'autre. Donc, à ce niveau-là, la chimie a vraiment pogné. Puis je lui ai surtout demandé... Sur scène, ça va avoir l'air de quoi? Il y a toujours bien juste une fille durant 129 jours dans un bateau et l'océan. Donc, comment on image tout ça et comment on rend la chose dynamique et vivante? Voici ce qu'elle a à dire.
On y va beaucoup dans l'évocation. On a utilisé le bateau qu'on construit souvent en origami. Là, tous les enfants ont fait ça dans leur vie. La structure sur scène qui est le bateau, elle se transforme. Elle peut être à la fois un vivant, elle peut être à la fois le bateau. Sinon, ben, on utilise beaucoup de projections. Il y a beaucoup de projections sur scène. C'est des grandes vagues de toile qui permettent la projection. Puis aussi, ben, on utilise l'audio. Il y a des séquences audio qui sont véritables.
Et l'aventure de Mylène Paquette a été enregistrée au complet parce qu'évidemment, tout au long du 129 jours, elle jase avec son équipe hein, sur le terrain qui lui dit « Bon, ben là, il y a des vents, là, tu vas manquer de vivre, etc. » Et toutes ces bandes audio-là sont disponibles et elles sont utilisées dans le spectacle. Est-ce que tu as mis disait, c'est qu'on entend vraiment des extraits inédits de l'équipe qui doute de Mylène, qui disent « Ben mon Dieu, je pense pas qu'elle va être capable », parce qu'il reste que l'aventure était prévue sur 100 jours, ça a pris finalement 29 jours de plus, elle a manqué de vivre pendant ce temps-là, donc il y a un bateau de croisière qui est venu lui donner des vivres pendant l'aventure, donc les gens, l'équipe sur le terrain rushait en bon français.
Elle a continué.
A continué, on entend ces doutes-là.
C'est tellement courageux. Là.
Fascinant, vraiment. Donc ce spectacle-là, ça s'appelle « La promesse de la mer ». C'est jusqu'au 17 août à la Maison de la culture Francis Brisson. C'est à Shawinigan. C'est à côté de la Cité de l'énergie. Allez faire un tour aussi à la Cité de l'énergie. C'est vraiment magnifique. Donc, lapromesse.ca pour vous procurer des billets. C'est une belle aventure. Je trouve que c'est une belle façon vraiment de parce qu'il y a beaucoup d'enjeux environnementaux qui sont abordés dans l'aventure de Mylène Paquette. Mmh. Donc, c'est une belle façon aussi d'inculquer ça à nos jeunes. Voilà. Mmh. Sinon... Je vous ai parlé des feux Loto-Québec hein, qui se sont terminés à Montréal la semaine dernière. Et bien maintenant, c'est les grands feux Loto-Québec à Québec qui commencent. Et c'est jusqu'au 24 août. C'est le long du fleuve Saint-Laurent, place des Canotiers, le Quai Paquet. Et la différence, Dan, ce qui est très cool, je trouve, avec les feux de Québec, c'est qu'au lieu que ça soit une compétition internationale avec des pays qui se présentent, etc., là, on fonctionne par thème. Donc, à chaque édition, il y a un thème qui est proposé, un univers musical qui est proposé. On invite les gens à se costumer. Et ce soir, ça commence avec ceci. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
Rive de Baisse. Ah, ça. Tu chantais, là, viens pour me dire si tu ne l'entendais pas.
Oui,
là.
Je l'entendais, mais moi, je pensais vraiment au film. Et d'ailleurs, c'est ce qui inspire cette soirée-là. Donc, style de danse, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un univers des années 90, justement inspiré du film Une nuit au Roxbury. Donc, la soirée ce soir des feux s'appelle Roxbury. On se rappelle le fameux film avec Chris Catton et Will Ferrell, le méga hit de 98. Donc, il va y avoir dans les costumes ce qu'on propose aux gens du léopard, du miroir, du néon, du kitsch. Et ce qui est cool, c'est que le party se poursuit dans des bars et des restos associés au grand feu. Donc, vous pouvez continuer la fête après avoir vu les feux d'artifice. Dans les thèmes qu'il va y avoir cette année, là, je vous en reparlerai lorsque ça se produira. Il était une fois dans l'Ouest, Casino Royal, le cinquième élément, Country, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc, on va nous plonger dans des univers de feux d'artifice et musicaux vraiment cool. Alors, c'est une belle façon de profiter de l'été pour les gens qui sont du côté de Québec.
Ben oui, chacun son tour.
Ouais, voilà. Et est-ce que je termine en te parlant des concerts Campbell? Est-ce que tu sais ce que c'est?
Non, de ce que je connais de Campbell, ça donne pas de concert, ça tombe dans un bol.
Ben, ça n'a absolument rien à voir avec les soupes, justement. Donc, pour la petite histoire, rapidement, ce sont des spectacles gratuits dans les parcs de Montréal qui existent depuis 1924, Dan.
Ça, c'est commandité par Campbell?
Pas du tout. C'est un monsieur qui s'appelle Charles Campbell, qui est à l'époque le directeur de McGill et un avocat super connu, philanthrope, qui tripe sur la culture et qui a, depuis 1924, financé des parcs, des spectacles d'opéra. D'ailleurs, ils l'ont mentionné et remercié la succession de monsieur Campbell lors du spectacle de l'Orchestre métropolitain il y a deux semaines. Mmh. Alors, c'est grâce à lui que ces concerts-là dans les parcs de Montréal existent depuis 1924, c'est quand même beaucoup. Il y a eu plein d'artistes au fil des années, juste l'an dernier et cette année. Matt Lang, Sarah Dufour, Sally Folk, les Petites Tounes, Pierre Quenders. Et ce soir, dans le sud-ouest de Montréal, au parc Georges-Étienne-Cartier, ça c'est coin Notre-Dame, à côté du métro Placé-Henri, c'est ce trio-là que j'adore, Random Recipe. Donc, Random Recipe. Oui, et c'est très, très cool. Ils sont super bonnes en show, les filles. Donc, il reste pour l'été Marco Cagliari, Benoît Chambeau, Canaille, Sarah Dufour. Ce sont des concerts dans des parcs qui sont partout à travers la ville. Allez sur le site de Accès Culture ou sur la page Facebook des concerts Campbell. Honnêtement, là, c'est une belle façon de passer un mercredi soir avec une petite crème molle dans un parc de votre quartier. Et tout ça, c'est gratis.
Alors, merci beaucoup, Jordan Dupuis, numéro 8, je pense, aujourd'hui.
Cette semaine, il est pas mal à 9, je te dirais.
Il est à 9, hein?
Avec Oshiaga qui s'en vient, là, on va tomber à 10.
Vous êtes des jumeaux très, très, très nombreux.
Voilà.
Merci beaucoup, mon Jordan.
Ça fait plaisir.
Après la pause, un projet de dépotoir nucléaire qui inquiète. À tout de suite.